18. Milieu de matinée. Hodges est au tribunal et son comportement est exemplaire. Polly serait fière de lui. Il répond aux questions de l'avocat du cogneur chauve avec une concision cassante. L'avocat lui a fourni plein d'occasions de réagir à l'emporte-pièce, et même si c'est un piège dans lequel Hodges est souvent tombé quand il était inspecteur en exercice, il l'évite à présent adroitement. Linda Saubers ramène sa fille silencieuse et blême à la maison, où elle lui fera boire un verre de ginger ale pour soulager son estomac avant de la mettre au lit. Elle a finalement pris la décision de demander à Tina ce qu'elle sait de l'argent mystère, mais pas avant que sa fille se sente mieux. Elles auront largement le temps dans l'après-midi, et elle devrait aussi associer Pete à la conversation, quand il rentrera de l'école. Ils ne seront que tous les trois, et c'est probablement mieux. Tom est en visite avec un groupe de clients dans un complexe de bureaux récemment libéré par IBM, à 80 km au nord de la ville, et il ne sera pas rentré avant 19h. Plus tard même, s'il s'arrête en route pour dîner. Pete est en troisième heure de cours. Et même s'il a les yeux fixés sur M. Norton, son prof de physique, qui est en train de déblatérer avec extase sur le boson de Higgs et l'accélérateur de particules construit par le CERN en Suisse, il a l'esprit beaucoup plus près de chez lui. Il est en train de réviser encore une fois son scénario pour l'entrevue de cet après-midi et de se rappeler encore une fois que c'est pas parce qu'il a un scénario prêt que Hallyday le suivra. Hallyday est dans la profession depuis longtemps, et c'est probablement pas la première fois qu'il frôle les marges de la loi. Pete n'est qu'un gosse, et il aura tout intérêt à pas l'oublier. Il devra faire preuve de prudence et compenser d'une façon ou d'une autre son manque d'expérience. Il devra réfléchir avant de parler, à chaque fois. Par-dessus tout, il devra se montrer courageux. Il commence par dire à Hallyday « La moitié d'un pain vaut mieux que pas de pain du tout. Mais dans un monde de disettes, même une seule tranche vaut mieux que rien du tout. Je vous offre 3 dizaines de tranches. Réfléchissez bien à ça. » Il continue en disant à Hallyday « Je serai pas le putain de pigeon de service. Réfléchissez bien à ça aussi. » Et en disant « Si vous croyez que je bluffe, allez-y, cherchez-moi. Mais si vous faites ça, on est perdants tous les deux. » Il pense « Si j'arrive à garder mon sang-froid, je peux m'en sortir. Et je le garderai. Je le peux. Je le dois. » Maurice Bellamy s'en va garer la Subaru volée à 2 pâtés de maison du manoir aux barges et retourne à sa crèche à pied. Il s'attarde devant la vitrine d'une boutique d'occasion le temps de s'assurer que McFarland n'est pas dans le coin, puis détale vers le bâtiment misérable et monte laborieusement les 8 volées de marche. Les 2 ascenseurs sont en panne aujourd'hui, ce qui est dans l'ordre des choses. Il fourre des vêtements au hasard dans l'un des 2 sacs de jardinage, puis quitte sa chambre minable pour la dernière fois. Sur tout le trajet jusqu'au coin de la rue, son dos le brûle et il a la nuque raide comme une planche à repasser. Il trimballe un sac dans chaque main et ils lui font l'effet de peser 50 kilos chacun. Il s'attend toujours à entendre McFarland le héler, sortir de l'ombre d'un Porsche et lui demander pourquoi il n'est pas au travail. Lui demander à quoi il joue, là. Lui demander ce qu'il trimballe dans ses sacs. Et puis lui annoncer qu'il retourne en prison. Ne passez pas par la case départ, ne touchez pas $200. Maurice ne se détend pas avant que le manoir aux barges ne soit définitivement hors de vue. Tom Saubers déambule avec sa petite meute d'agents immobiliers à travers le complexe IBM vide, leur désignant tour à tour ses divers atouts et les invitant à prendre des photos. Tous sont enthousiasmés par l'énorme potentiel des lieux. Quand viendra la fin de la journée, ses jambes et ses hanches reconstituées chirurgicalement le feront souffrir comme tous les diables de l'enfer, mais pour le moment, il se sent bien. Ce complexe industriel et ses bureaux abandonnés pourraient être le tournant de sa carrière. La chance de sa vie, enfin. Jérôme a débarqué à l'improviste au bureau de Hodges, pour faire la surprise à Holly, qui glapit de joie en le voyant, puis de frayeur quand il l'enlace pour la faire tournoyer comme il le fait avec sa petite sœur. Ils bavardent pendant une bonne heure, se racontant les dernières nouvelles, et Holly lui fait part de ses impressions sur l'affaire Saubers. Elle est heureuse de voir Jérôme prendre au sérieux son sentiment à propos du carnet Moleskine, et encore plus heureuse quand elle découvre qu'il a vu 22 Jump Street. Il lâche le sujet Pete Saubers, et discute du film en long et en large, le comparant aux autres opus de Jonah Hill. Puis la discussion évolue vers diverses applications informatiques. Andrew Hallyday est le seul à ne pas être occupé. Les premières éditions n'ont plus aucun intérêt pour lui. Pas plus que les jeunes serveurs en pantalon noir moulant. Pour lui maintenant, le pétrole et l'eau ne sont guère différents du vent et de l'air. Il dort du grand sommeil, dans une mare de sang coagulé qui attire les mouches.